continuer à nous parler des théories de la décroissance, je repasse la parole à Pierre Vendry.
Telle que décrite dans les ouvrages de nos auteurs, serait donc basée sur l'artisanat, qui redeviendrait donc, comme avant la société industrielle, le mode de production essentiel. Ce qui signifierait un retour en arrière considérable en matière de productivité du travail. Voilà un argument qui n'ébranlera certainement pas les décroissants pour qui la course à la productivité est négative par définition. Et pourtant, depuis que l'homme a commencé à transformer des objets pour en faire des outils, il y a plus de 2 millions d'années, il a cherché, plus ou moins consciemment, à augmenter le rendement de son travail. Et le rôle qu'a joué l'augmentation de la productivité dans l'évolution de l'humanité est absolument central. C'est bien l'augmentation de la productivité qui a permis, après l'apparition de l'agriculture, de voir apparaître la division du travail, que le travail d'un seul homme soit en mesure d'en nourrir 2, puis 3, puis 10, a permis qu'apparaissent de nouveaux métiers qui ne soient pas exclusivement tournés vers la production de nourriture, et a permis qu'apparaissent, au fur et à mesure que les sociétés se sont complexifiées, des intellectuels, des savants, des ingénieurs, lesquels savants ont pu se consacrer à des inventions qui, à leur tour, ont permis d'augmenter la productivité du travail. C'est cette augmentation de la productivité qui permet aujourd'hui non seulement d'avoir la possibilité de satisfaire largement aux besoins de tous, mais aussi qu'une classe ouvrière industrielle minoritaire en nombre dans la société soit capable de réaliser une telle production. Et c'est, soit dit en passant, ce qui permet à des gens tels que des politologues ou des publicitaires repentis de pouvoir réfléchir sur la baisse de la productivité sans avoir à se préoccuper d'effectuer un quelconque travail productif. Jamais la productivité du travail artisanal ne pourra atteindre le millième de celle de l'industrie. Il y a là une contradiction fondamentale dans les idées de la décroissance. Eux, qui veulent débarrasser au maximum l'humanité du travail, ne se rendent pas compte que le seul espoir pour qu'un jour le travail aliénant disparaisse, ce serait justement non seulement de mettre fin au gâchis capitaliste, mais aussi de chercher des gains de productivité toujours supérieurs, de manière à pouvoir produire plus en moins de temps, du temps libéré pour les producteurs. Revenir à l'artisanat signifierait, si l'on voulait ne serait-ce que fournir le strict minimum aux membres de la société, une augmentation de la quantité de travail individuel considérable. On voit bien ici une des questions principales qui sous-tend le débat entre les décroissants et les marxistes, et celle du progrès. Nous l'avons dit, le courant décroissant rejette avec mépris ce qu'il nomme l'idéologie du progrès, tant dans l'esprit que dans ses réalisations concrètes. Le mois dernier, par exemple, le journal La Décroissance titrait à la une « Résister au progrès ». Ce rejet du progrès et de la science par les décroissants les conduit à vouloir se débarrasser, sans même leur laisser le temps de se développer, de secteurs tels que les OGM ou les nanotechnologies, la discipline qui consiste à fabriquer des matériaux à l'échelle d'une milliardième de mètre. Dans une démarche quasiment mystique, ils rejettent tout ce qui nous éloigne de la nature telle qu'elle existait avant nous, ce qui explique qu'ils soient aussi bien opposés aux engrais chimiques qu'aux prothèses, qui seraient en passe de nous transformer en hommes-machines. On se demande simplement si ceux qui affirment cela assument que rejeter le progrès, eh bien cela veut dire aussi rejeter la médecine, les échographies et les scanners, les vaccins et les trithérapies et quelques autres milliers d'inventions qui ont délivré la population des pays riches d'un certain nombre de fléaux. Mais à ceux qui affirment, comme nous, que la science est un des moyens qui pourrait offrir à l'humanité les conditions de son émancipation, les décroissants ont une réponse toute trouvée à la bouche. Eh bien cela, ce serait des scientistes. Alors le scientisme, c'est un courant philosophique qui a eu une certaine vogue à la fin du XIXe siècle et qui existe encore aujourd'hui. Il consiste à faire de la science le seul moteur de l'évolution des sociétés, à croire que la science seule pourrait révolutionner le monde. Le marxisme a toujours combattu le scientisme en expliquant expliquant que la science n'est qu'un moyen dont les résultats ne peuvent s'apprécier qu'en fonction des rapports sociaux dans une société donnée. Un raisonnement scientiste typique est celui du scientifique Marconi, qui, lorsqu'il imagina le principe de la télévision, en conclut que celle-ci marquerait forcément la fin de toutes les guerres, car Marconi croyait que les guerres naissent d'un manque de communication entre les peuples. Mais la science et la technique, comme l'a écrit Trotsky, ne se développent pas dans le vide, elles le font dans une société humaine divisée en classes. La technique en elle-même ne peut être appelée militariste ou pacifiste. Dans une société où la classe dirigeante est militariste, la technique est au service du militarisme. Et oui, la science sera un formidable moyen d'émancipation de l'humanité, mais cela ne sera possible que lorsque ce sera la population elle-même qui exercera le pouvoir. C'est en cela... C'est en cela que les marxistes ne sont nullement scientistes. En revanche, il est frappant de constater que les décroissants font exactement la même erreur de raisonnement que les scientistes en se contentant de la renverser. Les scientistes prétendent que la science pourrait être la cause de tout le bien, les décroissants qu'elle serait celle de tout le mal. C'est exactement le même raisonnement au fond, qui ne tient aucun compte de l'existence des rapports sociaux. Il est aberrant de considérer la science, la technique, comme des causes et non comme des moyens. Aberrant parce que cela ne peut pas permettre de comprendre les réalités sociales. Tout objet technique, du plus simple au plus complexe, peut être utilisé pour être utile à l'humanité ou pour lui nuire. Faut-il rejeter l'électricité sous prétexte qu'elle a servi à torturer en Algérie ? Même un objet technique, aussi simple qu'une machette, peut servir à couper de la canne à sucre ou à massacrer des gens. Mais celui qui pense que c'est la machette et non l'impérialisme qui est la cause du génocide au Rwanda, eh bien celui-là n'a guère de chance de pouvoir ni comprendre, ni agir. Tous les objets qui nous entourent, tous les objets qui nous entourent et qui nous facilitent la vie, sont à la fois le fruit du progrès scientifique et de la volonté de la bourgeoisie de faire des profits. Le capitalisme a toujours su concilier ces deux aspects, ce qui a tiré l'ensemble de la société humaine vers l'avant. C'est la raison pour laquelle Marx considérait que le capitalisme représentait un immense progrès historique, quand bien même il s'était développé, comme Marx disait, en suant le sang et la boue par tous les pores. Mais le capitalisme d'aujourd'hui, en fin de course, s'il n'empêche pas le progrès, eh bien il le freine, il le bride, il le maintient à des niveaux incomparablement plus bas que ce qu'il pourrait être. Avec le secret industriel, les brevets, les crédits qui sont ou ne sont pas alloués à telle ou telle recherche. Avec surtout le fait que des milliards d'êtres humains sont aujourd'hui empêchés par la misère d'accéder au savoir et de devenir des savants. Oui, le capitalisme bride le progrès. Oui, il est capable de s'emparer des plus magnifiques fruits de la science et d'en faire des instruments de mort. Mais que faut-il en conclure ? Qu'il faut rejeter le progrès ou qu'il faut en finir avec le capitalisme ? Alors au final, tous les raisonnements des décroissants que nous venons d'évoquer ne prouvent qu'une chose, c'est qu'ils sont incapables de sortir des raisonnements malthusiens. Du nom de Robert Malthus, qui pensait, au début du XIXe siècle, que l'accroissement des richesses ne pourrait jamais permettre de subvenir aux besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Ah, certains décroissants se défendent d'être malthusiens, parce que ça sonne mal. D'autres l'assument totalement, comme ce décroissant qui écrit carrément, je le cite, « Tout accroissement de la production agricole alimente la pullulation humaine. » Et qu'il l'assume ou pas, la décroissance part d'un raisonnement fondamentalement malthusien, consistant à considérer que les richesses disponibles ne sont pas suffisantes pour une humanité dont le nombre et la consommation s'accroissent. Et cet aspect a d'ailleurs été clairement posé dès les origines de la décroissance, puisque le père fondateur de cette doctrine, Nicolas Georgescu Rueghel, écrivait en 1979, je le cite, « La grandeur souhaitable de la population est celle que pourrait nourrir une agriculture exclusivement organique. » On dirait aujourd'hui une agriculture biologique. Il ne précise pas toutefois les moyens qu'il juge souhaitable d'employer pour éliminer demande de quelle société de chasseurs-cueilleurs il parle. Celle de l'époque du Mésolithique, il y a un peu plus de 10 000 ans, où 86% des individus mouraient avant l'âge de 30 ans. Ou peut-être celle plus ancienne des synanthropes, il y a 300 000 ans, où 70% des individus n'atteignaient pas 15 ans. On ne sait pas si les peuplades de ces époques connaissaient ou non l'abondance, mais même si c'était le cas, il faut peut-être rappeler que la population mondiale représentait, il y a 35 000 ans, 5 millions d'individus. Alors, renouer avec l'abondance perdue des sociétés de chasseurs-cueilleurs supposerait donc, petit détail, de faire préalablement disparaître 99,9% de la population mondiale actuelle, et ça, même Malthus n'a jamais osé le proposer. Des décroissants et qu'il semble considérer la Terre comme une sorte de réserve de matières premières brutes dont l'homme se contente de tirer des produits sans les transformer. C'est ignorer, encore une fois, ou faire semblant d'ignorer, l'augmentation du rendement permise par la technique. Entre l'an 1000 et l'an 2000, la population humaine a été multipliée par 25. Et pendant ce temps, la production de richesses l'a été par 356. Alors bien sûr que cette augmentation de la production pose des problèmes d'impact sur l'environnement, mais il n'y a aucune raison de supposer que la seule issue soit ou la diminution de la consommation, comme le disent les décroissants, ou la diminution de la population elle-même, comme le disent les Malthusiens. Le développement de la technique et de la science permet d'envisager à la fois qu'on tire davantage de la nature, tout en l'abîmant moins. Sauf que tout cela suppose de changer l'organisation sociale, d'arracher la direction de la société des mains de la bourgeoisie, et cela, c'est précisément la seule question que les décroissants ne posent jamais. Alors, voyons maintenant ce que sont non plus les idées, mais les modes d'action que prônent les objecteurs de croissance. Depuis quelques mois, ce sujet, qui était jusque-là assez flou, a été un peu éclairci par le lancement d'un certain nombre de regroupements politiques décroissants, comme l'ADOC, l'Association des objecteurs de croissance, qui ont été amenés à se poser le problème des modalités d'action, puisqu'ils espèrent se présenter aux élections régionales. Et ces modalités d'action pourraient permettre, si l'on en croit le manifeste fondateur de l'ADOC, de, disent-ils, sortir définitivement du capitalisme. Le premier moyen d'action prôné est celui des manifestations sans violence. Nombre de pistes sont évoquées, les pétitions, votations, démonstrations pacifiques, marche de la décroissance, à dos d'âne, éventuellement, journée sans achat, etc. On note que la seule forme de lutte qui soit absente de ce programme, c'est la grève. Du moins, la grève du travail, à laquelle les décroissants préfèrent la grève de la consommation. Alors, comme on s'en doute, quand ils parlent de grève de la consommation, ils ne prônent pas d'arrêter de manger, mais d'arrêter de se fournir dans la grande distribution, pour revenir, une fois de plus, vers les artisans et les petits commerçants. Ce mode d'action, le boycott de la grande distribution et des grandes marques, est certainement l'aspect qui remporte le plus de succès au-delà même du milieu décroissant. Il peut sembler logique, en effet, que si les gens cessaient de fréquenter les hypermarchés, s'ils cessaient de s'approvisionner auprès des grandes marques, etc., eh bien, ça ferait baisser les marges des capitalistes et peut-être les asphyxierait. Ça peut sembler logique peut-être, mais c'est parfaitement irréalisable. Bon, comme les décroissants, certains décroissants nous ont déjà accusés d'être implicitement des défenseurs de la grande distribution et des trusts, précisons d'emblée que non, nous n'avons aucune sympathie pour les capitalistes de la grande distribution. Leur méthode monopoliste, la façon dont ils traitent les petits producteurs, leur technique de marketing, l'exploitation qui règne dans leur sous-sol et aux caisses, tout cela est un bon concentré de pur capitalisme. Ce qui n'empêche pas, disons-le tout de même, que nous estimons pour notre part préférable que les travailleurs soient en mesure de fréquenter des supermarchés et d'y remplir leurs caddies, plutôt que de manger des galettes de boue, comme le font les damnés de la faim à Haïti. On pourrait commencer d'abord par se poser la question de savoir où ces partisans du boycott s'approvisionneraient-ils. Les décroissants ne l'ont peut-être pas remarqué, mais l'une des tendances historiques du capitalisme est d'avoir littéralement annihilé le petit commerce et l'artisanat. En France, après-guerre, il il y avait encore un nombre important de commerçants indépendants et de petits artisans. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Si l'on parcourt n'importe quel centre-ville de ce pays et que l'on enlève les banques, les succursales des grandes chaînes, opticiens, magasins de vêtements, etc., il ne reste presque rien. Et notre boycotteur se retrouvera tôt ou tard obligé ou bien de céder à cet état de fait ou bien en effet de cultiver son propre potager et de tisser lui-même ses vêtements. Mais allons plus loin. Imaginons une minute que le petit commerce connaisse une deuxième jeunesse et qu'un important mouvement d'opinion en faveur du boycott se développe, y compris dans les milieux populaires, avec pour résultat de menacer réellement les intérêts des trusts capitalistes. Mais qui peut croire un seul instant que ces mêmes trusts capitalistes se laisseraient plumer sans réagir? C'est oublier la capacité d'adaptation des capitalistes qui, de la même manière qu'ils ont été capables de prendre le virage du développement durable, pourraient réagir en multipliant à l'avenir les petites enseignes à la place des hypermarchés, petites enseignes qui appartiendraient au même groupe et seraient dépendantes des mêmes banques. On a souvent l'impression que les décroissants, à force de rejeter la lutte des classes, ont fini par oublier que la classe sociale qui dirige aujourd'hui le monde, la bourgeoisie, a toujours été prête à tout pour sauvegarder ses profits. Elle disposerait, ne serait-ce qu'à travers les appareils d'État qui lui sont tout dévoués, de 1000 moyens pour répondre à un tel mouvement, tout simplement en coupant le problème à la source, c'est-à-dire en étranglant des petits commerçants gêneurs. La bourgeoisie aurait et les moyens et la volonté de le faire si ses profits étaient réellement en danger. À moins de croire que les capitalistes sont des enfants de cœur, respectueux de la démocratie, de la volonté populaire et des desiderata des consommateurs, ce que nous ne pensons pas. Permettons-nous quand même de rappeler que la bourgeoisie et ses États, pour sauvegarder les profits, ont été capables de faire bien d'autres choses, bien pire, de provoquer des guerres qui ont tué des millions de gens ou de faire mourir de faim aujourd'hui même un enfant toutes les 6 secondes. Alors croire qu'un gentil petit boycott des grandes surfaces pourrait faire autre chose que les faire rire, c'est de se faire de cruelles illusions. Il en va de même plus largement pour tous les projets d'expérimentation concrète que proposent les décroissants. Elles ne pourront jamais rester que des projets à la marge, des tentatives dérisoires pour essayer de contourner le capitalisme, plutôt que d'essayer de la battre. Ce n'est pas très nouveau. Dès le début du XIXe siècle, il y a eu des militants pour prôner la mise en place de systèmes alternatifs, capables, selon eux, de convaincre par l'exemple. C'est ce qu'on a appelé à l'époque les socialistes utopiques. Et leurs projets, il y a presque 2 siècles, apparaissaient autrement plus hardis et plus révolutionnaires que ceux des décroissants. Mais le problème est le même. Que l'on parle des SEL, ces systèmes d'échange locaux, de la mise en place de monnaies locales qui ne permettraient même pas d'acheter des marchandises en dehors de son propre village. Eh bien, tout cela ne peut exister que de façon marginale tant que cela n'inquiète pas et ne dérange pas les capitalistes. Et en aucun cas, de toute façon, cela ne pourrait être généralisé à l'ensemble de la société. Il n'y a qu'à prendre l'exemple des AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, très en vogue dans le milieu écolo-décroissant. Le système est simple, on s'inscrit à une AMAP et on s'engage à acheter chaque semaine un panier de produits frais à un agriculteur local. Nul doute que les produits achetés sont de meilleure qualité que ceux qu'on trouve chez les hard discounters pour pauvres. Tant mieux pour ceux qui peuvent y avoir accès. Mais une AMAP, comme celle des Lilas en région parisienne, avoue ne pas pouvoir fournir plus de 30 paniers par semaine. Le nombre de petits producteurs et leur productivité étant bien trop faible pour en accueillir plus. Alors il y a 12 millions d'habitants en région parisienne, il est techniquement impossible que les petits producteurs, locaux ou pas, puissent satisfaire cette demande. Finalement, on le voit, par quelques bouts qu'on essaye de la prendre, la décroissance reste un mouvement au mieux utopiste, profondément réformiste et fondamentalement réactionnaire. Utopiste et réformiste. Et réformiste parce qu'il est illusoire de croire que l'on peut vaincre le capitalisme en lui donnant des coups d'épingle. Illusoire de croire que l'on pourrait changer la mentalité des gens sans changer de société. Les décroissants se lamentent constamment du fait que les travailleurs eux-mêmes soient intoxiqués par la consommation, animés par la volonté de gagner de l'argent. Mais ils retardent. Cela fait 150 ans que Marx a écrit, je le cite, que l'idéologie dominante est toujours l'idéologie de la classe dominante. Une idéologie fondée sur le partage, la fin de l'individualisme, de la concurrence du chacun pour soi, ne pourra se développer que lorsque la classe dominante ne sera plus la bourgeoisie, mais le prolétariat qui aura collectivisé les moyens de production. Fondamentalement réactionnaire enfin, parce que la décroissance, oui, veut faire tourner à l'envers la roue de l'histoire, en revenant à des modes de production depuis longtemps disparus, et en se coupant ainsi de toute possibilité de changer le monde, en s'appuyant sur les progrès générés par la société industrielle. Essayer de comprendre pourquoi cette théorie a le vent en poupe. Comment il est possible que des intellectuels de gauche puissent aujourd'hui se dire anti-progressistes sans qu'apparemment cela fasse bondir grand monde? La décroissance est clairement le fruit d'une époque, d'une période de déliquescence de l'histoire du capitalisme. D'abord, une période de profonde démoralisation politique, une période où bien des combats ont été menés et bien des combats perdus. Où les partis de gauche, comme les directions syndicales, se sont tellement englués dans la collaboration de classe qu'ils ont définitivement abandonné, ne serait-ce que des références à la possibilité de transformation sociale. Une période où, avec la disparition de l'URSS, il y a 20 ans, les derniers vestiges visibles de quelque chose qui n'était pas le capitalisme ont disparu. Cette situation pousse bien des intellectuels, bien des jeunes, à se réfugier dans une espèce d'individualisme désespéré. Et puis, nous sommes aussi dans une période de décadence économique. Le capitalisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui conquérant de l'époque de Marx. Le capitalisme d'aujourd'hui est poussif, à bout de souffle. C'est un vieillard sénile qui ne se tient debout qu'en s'appuyant à gauche sur la béquille des aides de l'État et à droite sur celle du monopolisme. Ce capitalisme-là, il n'a plus rien à offrir à personne. Nulle possibilité de réussite individuelle, pas même pour des petits bourgeois sans cesse menacés de se retrouver poussés vers la pauvreté. Toutes les sociétés en fin de course ont produit leur philosophie du dénuement, conseillant à leurs adeptes de se dépouiller des biens de ce monde, parce qu'il fallait trouver dans la spiritualité ce que l'on ne pouvait plus trouver dans la réalité matérielle. Le stoïcisme à la fin de l'époque athénienne, le catholicisme sous l'Empire romain ont joué ce rôle. L'essor de la bourgeoisie commerçante a engendré la Renaissance et l'humanisme. Le capitalisme triomphant du XIXe siècle a produit par contre-coup le manifeste communiste. Eh bien, le capitalisme à l'agonie du début du XXIe siècle donne naissance, entre autres, à la décroissance. Il n'y a rien de surprenant au fait que la décroissance rencontre ses plus grands succès dans le milieu des intellectuels déclassés, enseignants précaires, étudiants salariés. Cela, à qui longtemps la société capitaliste a eu à offrir une petite place, ne se voit plus aucun avenir dans cette société en décrépitude. Certains se réfugient alors dans une idéologie du dénuement, de la pauvreté choisie et non imposée, comme si dans un dernier effort un peu dérisoire de fierté, ils disaient au capitalisme, plutôt que de laisser la société nous dépouiller contre notre gré, nous préférons le faire nous-mêmes. Ne se rendent probablement pas compte que véhiculer et populariser ces idées non seulement n'a aucune raison de faire peur à la bourgeoisie, mais au contraire, pourrait bien lui rendre de grands services. Le matraquage écologiste, et aujourd'hui décroissant, permet d'accréditer l'idée que si finalement tout le monde se serrait la ceinture, eh bien le monde irait mieux. Qu'un salarié qui voit son pouvoir d'achat diminuer devrait plus se réjouir que s'en plaindre. Encore la décroissance, le journal La Décroissance titrait il y a peu de temps « Merde au pouvoir d'achat ». Avec l'écologie classique, on peut convaincre un salarié qui ne peut plus s'offrir une voiture et doit aller au travail en vélo qu'il fait un geste pour la planète. Avec la décroissance, on passe un degré au-dessus. Il fait même un geste pour les pauvres du tiers-monde, puisqu'en réduisant sa consommation, il laissera plus de place à celle des Africains. En réalité, ça n'a aucun rapport. Et ce n'est pas le fait que les travailleurs européens voient leur pouvoir d'achat taillé en pièces qui augmentera si peu que ce soit celui des miséreux d'Afrique. Cela n'augmentera que les profits des capitalistes. Mais que les travailleurs le pensent, et le pensent nombreux, cela ne peut qu'arranger la bourgeoisie d'ici. Tout cela revient, encore une fois, à tenter de trouver des solutions de remplacement lorsque l'on ne croit plus à un autre avenir pour l'humanité. Les décroissants n'envisagent que des solutions de replâtrage, donc on ne peut que se désoler de la faible ambition. Chez les décroissants, tout doit être petit, local, lent. Il faut réduire, décroître, ralentir. Il faut aller vers des micro-sociétés, des petites exploitations, des petits potagers, des petits commerces, des petits artisanats. Ils dénoncent les projets scientifiques les plus ambitieux en les appelant prométhéens, du nom du héros grec Prométhée, qui dans la légende vola le feu aux dieux pour le donner aux hommes. C'est la raison pour laquelle ils critiquent si violemment le projet de fusion nucléaire ITER. Au lieu de s'émerveiller du fait que des scientifiques tentent de recréer le soleil dans un laboratoire, les décroissants s'indignent de ce que les hommes cherchent à imiter la nature ou Dieu. Ce sont eux qui le disent. Et même dans la vision qu'ils ont des loisirs et de la vie en général, on retrouve ce même regard limité. Serge Latouche, toujours lui, fait cet étonnant éloge du chacun chez soi, je le cite. Un clocher au centre et tout autour un horizon. Des limites d'un territoire suffisant pour une vie d'homme. Il ne faut pas bouger pour que l'imagination déploie ses ailes. Comme on est loin en lisant cette apologie de l'immobilisme et cette théorisation de son propre manque d'ambition pour l'humanité, les perspectives grandioses que le communisme trace à l'humanité. Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas scientistes. Nous pensons tout de même que l'on peut placer d'immenses espoirs dans l'alliance de la révolution sociale et de la science. Et ne pas perdre confiance en cela. Quelles que soient les difficultés de la période traversée et l'ambition des communistes. Dans une période bien plus sombre qu'aujourd'hui, en 1927, alors que le stalinisme était en train d'abattre une chape de plomb sur la révolution russe, le bolchevique Adolf Joffé écrivait sur son lit de mort, je le cite, « Pendant plus de 30 ans, j'ai admis l'idée que la vie humaine n'a de signification que dans la mesure où elle est au service de quelque chose d'infini. Pour nous, l'humanité est cet infini. Si l'on croit, comme je le fais, au progrès, on peut admettre que lorsque l'heure viendra pour notre planète de disparaître, l'humanité aura, longtemps avant, trouvé le moyen d'émigrer et de s'installer sur des planètes plus jeunes. Nous ne discutons pas de la validité scientifique de cette idée, mais de l'attitude morale qu'elle dénote. L'humanité n'a finalement pu avancer que parce que, tout au long de son histoire, des hommes et des femmes, inventeurs, découvreurs, savants et révolutionnaires, ont été capables de réfléchir ainsi et de regarder au-delà de leur clocher. La société socialiste sera, en matière de production, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Les besoins seront définis démocratiquement. Cette définition donnera naissance à des plans de production et cette planification permettra une production maîtrisée qui mettra fin pour toujours au gâchis et au gaspillage du capitalisme. Qu'est-ce qui croîtra et qu'est-ce qui décroîtra dans cette société? Il est évidemment difficile de le dire aujourd'hui. Au-delà du fait qu'une humanité consciente apprendra certainement à se limiter si cela est nécessaire et regardera avec mépris les avions privés et les yachts géants des milliardaires d'hier. On peut cependant déjà avoir deux ou trois idées. Dès que l'homme sera débarrassé des oppositions de classe, dès qu'il n'y aura plus un seul exploiteur à menacer et à vaincre, la première production qui disparaîtra sera naturellement celle des armes. Dès que l'économie sera rationalisée et planifiée, de formidables économies de papier et donc de bois seront faites grâce à la disparition progressive d'abord des milliards de prospectus et d'affiches publicitaires, puis tout simplement des billets de banque et des chèques. Et ce ne sont que quelques exemples. Et ce ne sont que quelques exemples car nous sommes convaincus que l'humanité fera preuve en la matière de beaucoup d'imagination. Oui, dans une telle société, l'homme aura pour la première fois la possibilité d'avoir la maîtrise totale sur la nature et ses destinées. Et tant pis pour ceux qui pensent que c'est vouloir prendre la place de Dieu, nous ne croyons pas en Dieu. L'homme soumettra la nature à sa volonté, mais ça ne veut pas dire qu'il la négligera, car il aura alors pleinement conscience qu'il a besoin de la protéger parce qu'il en est partie intégrante. Trotsky écrivait à ce sujet en 1925. Les idéalistes nigauds peuvent dire que tout cela finirait par manquer d'agrément. C'est pourquoi ce sont des nigauds. Pensent-ils que tout le globe terrestre sera tiré au cordeau, que les forêts seront transformées en parcs et en jardins? Il restera des fourrés et des forêts, des faisans et des tigres, là où l'homme leur dira de rester. Et il poursuit, le mode de vie communiste ne croîtra pas aveuglément à la façon des récifs de corail dans la mer. Il sera édifié consciemment. Il sera contrôlé par la pensée critique. Il sera dirigé et rectifié. L'homme qui saura déplacer les rivières et les montagnes, qui apprendra à construire des palais du peuple au fond de l'océan, donnera à son existence la richesse, la couleur, la tension dramatique, le dynamisme le plus élevé. Oui, camarades, nous avons confiance dans cet avenir-là pour l'humanité. Nous sommes tous témoins de l'extraordinaire accélération du progrès scientifique et technique, du fait que si l'homme a mis des centaines de milliers d'années pour inventer le feu et la pierre taillée, il ne lui a fallu que deux siècles à peine pour passer de la machine à vapeur au génie génétique et aux nanotechnologies. Il est certain qu'utilisé par le capitalisme, ce progrès peut engendrer le pire, mais utilisé par une humanité consciente, il peut tout simplement permettre de changer la face du monde. Aux décroissants qui ne proposent à l'humanité que de revenir à la société pré-industrielle et de renoncer aux fruits du progrès, eh bien nous répondons avec Trotsky, l'inconnaissable n'existe pas pour la science, nous comprendrons tout, nous apprendrons tout, nous reconstruirons tout. Ces perspectives semblent peut-être bien éloignées de la situation que nous vivons tous en ce moment. Mais il faudra pourtant continuer de les défendre contre vents et marées, parce qu'elles seules sont à la hauteur de l'humanité et de tout ce qu'elle a été capable de réaliser de meilleur tout au long de son